J'en peux plus d'être un agneau.
Sors de l'enclos, mets la radio.
Sors du troupeau, mets la radio. Dans les monts d'art, à Locmélard.
Tu veux découvrir la radio?
Oh oui, je veux.
Viens en bistrot, dans les monts d'art, près de Locmélard.
Sors du troupeau.
Sors du troupeau, Locmélard, dans les monts d'art.
Mets la radio.
Deviens le mouton noir du troupeau. Aimez la radio.
Bonsoir, good evening, Locmélard, bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Nous sommes en direct de la salle du bar concert de Locmélard, le Mélardite. Je suis Ludwig et je vous présente nos différents présentateurs de ce soir. Donc, Jean Hervé avec son ami Laure qui va nous présenter son ancien métier d'hélicicultrice. Et notre grand animateur principal Quentin et Hervé, un nouvel habitant de Locmélard. Romain, un nouvel habitant de Locmélard. Voilà, en avant la musique, passe le mic.
Les Locmélariens parlent au français.
Passe l'émission.
Nous allons vous présenter la vie des habitants de Locmélard.
Et à la fin de l'émission, ce sera aux invités de choisir les futurs interviewés. Bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
Donc, je vous présente Laure, comme promis. Donc, Laure, peux-tu nous expliquer ton parcours professionnel en hélicicultureet à la base, qu'est-ce qui t'a passionné dans les escargots pour que tu aies décidé d'en faire ton métier et... Qu'est-ce qui t'a attiré? Je présume que ça doit déjà dater de très longtemps. Tu as déjà dû avoir une attirance pour ces bêtes, je pense, déjà dans l'enfance. Explique-nous un peu ce qui t'a attiré là-dedans et que tu as décidé d'en faire ton parcours, en fait.
Bah bonsoir. Alors, bah, plusieurs choses. J'ai toujours aimé la biologie, les petites bêtes. Avant, j'étais chercheuse en biologie marine. Et quand j'étais petite, bien sûr, j'aimais les escargots. J'ai fait un élevage dans ma chambre, au grand malheur de ma mère, avec tous les escargots qui sont partis et qui ont fait plein de traces partout. j'ai été biologiste marin pendant une dizaine d'années. Et pour rapprochement de conjoint et plusieurs autres raisons, j'ai
Salut,
cherché un autre métier qui pouvait un peu continuer dans la biologie. Dans la biologie, je travaillais déjà sur les mollusques, sur les gastéropodes marins et leurs interactions avec les algues. Et du coup, passer à un élevage d'escargots, ça, c'était un petit peu dans la continuité. Et puis c'était aussi un peu hors du commun. Voilà.
Bah, du coup, ça me fait penser à une première question à te poser. Vis-à-vis de ton métier de chercheuse marine, je présume que ça a dû déjà sur les côtes de Bretagne dans un premier temps, je pense. Et c'est peut-être une idée à moi, mais je pense que tu as dû aller dans différentes mers du globe, peut-être par rapport à ton métier, pour étudier pour ces recherches.
Alors, différentes mers, pas trop. Je suis quand même restée assez locale. J'étais partie en Angleterre pour finir mes études. J'ai fait une thèse là-bas, donc j'étais déjà à Plymouth, donc pas très loin de la Bretagne. Et je me suis toujours dit qu'après, parce que j'en avais un peu marre du temps, j'irais au sud. Et donc, j'ai atterri à Roscoff et je suis restée en Bretagne. Voilà.
D'accord. Avec la grande sécheresse de Roscoff. OK.
Moi, j'ai une première question. La deuxième, du coup. Donc, on apprend qu'il y a des escargots sous l'eau.
Il y a des escargots sous l'eau. Ouais.
Est-ce qu'ils ressemblent aux escargots sur Terre?
Ben oui, si tu vas te promener sur les strands, t'as les petits bigorneaux et toutes ces petites bestioles-là.
Ah, donc le bigorneau, c'est un escargot.
C'est un escargot.
Et ouais. On le mange aussi.
On le mange aussi, ouais. Ok.
Le Bernard l'Ermite, c'est un escargot aussi?
Pas du tout. Pas du tout. C'est un crustacé qui pique la coquille, les coquilles vides pour se protéger. Ouais.
Et ça, c'est une pratique que les escargots n'ont pas du tout. Ils ont leur propre coquille.
Non, ils restent dans leur coquille, ouais, les escargots. Okay. Ils grandissent avec leur coquille et ils restent dedans. Ouais.
Est-ce qu'ils se retrouvent parfois coincés dans une trop petite coquille ou à l'inverse, dans une trop grosse coquille?
Non.
Ça s'adapte bien.
La coquille grandit avec eux. Ils peuvent perdre leur coquille s'ils cassent leur muscle. Il y a un muscle qui tient l'escargot dans la coquille. Et si ce muscle-là vient lâcher, ben ils peuvent perdre leur coquille. Après, ils n'ont plus une durée de vie très longue, mais ils peuvent perdre leur coquille.
Ils ne se transforment pas en limaces, du coup?
Non, ils ne deviennent pas des limaces.
Ok.
On est en Bretagne, on a parlé beaucoup de la mer, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus un produit de la terre. Du coup, j'en profite pour faire une petite transition et s'intéresser au sujet principal. Ton métier, très concrètement, éleveuse d'escargots.
C'est ça.
On en connaît beaucoup en Bourgogne, ils sont réputés pour ça. On en connaît pas mal à Quimper aussi. Comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux et qu'est-ce qui t'amène, toi, à avoir travaillé dans ce milieu? Et nous expliquer, comme l'a dit Ludwig dès le départ, ce qui t'a enchanté, peut-être quel était le petit fil accrocheur pour que tu ailles dans ce domaine.
Ouais, du coup, comme je connaissais, je m'y connaissais un petit peu en physiologie des mollusques marins, je me suis dit que je pouvais me lancer dans les terrestres, passer aux terrestres. Je pense que c'est venu en voyant un reportage sur une autre hélicicultrice qui élevait ses escargots, qui avait un élevage pas très loin d'ailleurs dans les Côtes d'Armor. Et je me suis dit, tiens, moi aussi je peux faire ça. Au début, c'est parti d'une blague où je disais, ah ouais, moi après je vais élever des escargots. Et puis finalement, j'ai pas trouvé ça si bête. Et j'ai commencé à me renseigner, voir si c'était faisable, si on pouvait se former, si on pouvait en vivre aussi. Donc je suis donc allée voir cette hélicicultrice que j'avais vue sur un journal pour discuter avec elle. Je me suis renseignée sur les formations et puis je suis partie faire une formation à Chambéry pour tout apprendre de l'élevage de l'escargot. Et donc formation de 3 mois. Et ensuite, c'était parti, quoi. J'ai appliqué ça au départ un petit peu comme j'ai pu en tâtonnant dans mon petit champ à côté d'ici. Et puis j'ai fait pendant 7 ans un élevage d'escargot.
Ça demande beaucoup de mise en place, je veux dire d'un point de vue structurel, matériel, pour élever des escargots. Ou est-ce que moi, demain, je prends des parpaings, une poubelle et c'est parti? Ou est-ce qu'on a de quoi faire ça chez soi? On peut être vite auto-entrepreneur sur ce sujet?
Alors, à petite échelle, on peut faire ça chez soi. Ma fille continue à faire des élevages d'escargots à la maison. On a toujours un petit escargot quelque part dans un terrarium. Ensuite, si on veut en vivre, il faut que ce soit un petit peu plus grand quand même. Mais ça demande beaucoup moins d'investissement. C'est aussi pour ça que je me suis lancée là-dedans, en me disant que les investissements ne sont pas non plus énormes comparés à un élevage de plus classique, de vaches, de moutons, etc. Au niveau infrastructure, ça ne demande pas énormément. Moi, j'avais 1000 m² de champs où je faisais grandir mes escargots. Et ensuite, il fallait une chambre froide, un laboratoire de transformation, parce que je les cuisinais ensuite et je les vendais sur les marchés, donc tout en circuit court. Et donc l'investissement de départ n'est pas énorme comparé à un autre élevage. C'est d'ailleurs ce que le banquier m'avait dit quand j'ai signé les papiers, en me disant « vous ne vous rendez pas compte ce que j'ai lâché dans une autre exploitation à côté ». Comparé à ça, c'était le prix d'une voiture, quoi, d'une grosse voiture, mais voilà.
Les débouchés d'une telle production tu nous as dit que tu les vendais sur les marchés, tu les cuisinais directement. Est-ce que les restaurateurs font appel à toi? Est-ce que tu les démarches? Est-ce que c'est une espèce d'escargot qui peut être définie comme un produit de très haute qualité ou qui peut intéresser justement la haute gastronomie? Est-ce que c'est des débouchés qu'on peut retrouver?
On peut envisager ça, ouais. Moi, j'étais partie du principe que tout le monde puisse acheter sa petite douzaine d'escargots s'il en avait envie. Donc l'idée était de pas avoir des prix très très élevés au départ, que ça reste à peu près abordable. Et du point de vue des restaurateurs, en fait, j'ai jamais vraiment démarché les restaurateurs, c'est eux qui m'ont contacté. Et comme c'était un petit élevage, et ben souvent je pouvais pas répondre à leurs demandes parce que je pouvais pas leur fournir, j'avais pas assez pour fournir, avoir assez pour vendre sur mes marchés. Et fournir régulièrement des restaurateurs en escargot. Mais ils étaient assez intéressés. Ouais, j'ai été régulièrement contactée par des restaurateurs. Ouais.
Parce que sur 1000 m², tu avais combien d'escargots à peu près ?
Alors, je mettais 200 000 escargots tout petits dans les champs tous les ans.
Ah ouais.
Qui étaient lâchés tout petits. Ouais. Alors moi, je ne faisais pas la reproduction. J'avais des collègues à moi qui faisaient la reproduction. Et donc j'ai acheté des boîtes de camembert avec 5 000 escargots à peu près dedans, et que j'ouvrais dans mon champ, et hop, ils étaient partis pour la saison. Ils étaient tout petits, gros comme une tête d'épingle, et
donc ils sont tous au même âge, en même temps ?
Oui, au départ, oui.
Ok.
On les met, donc on les lâche dans le champ au mois de mai, on attend la fin des dernières gelées, qui gèlent derrière. Et puis ils grandissent, ils arrivent à taille adulte, alors ils vont quand même assez vite. Ils vont pas vite pour se déplacer, mais pour grandir, ils arrivent à taille adulte. En quelques mois, en octobre, on les récoltait et ils étaient déjà à taille adulte.
Ok. Ouais, donc c'est rapide quand même.
C'est rapide, ouais. L'élevage, c'est que le printemps-été.
Ok. Et est-ce que c'est une production qui se maîtrise bien ? Est-ce que c'est difficile de les garder en vie ?
C'est un peu difficile, ouais. J'avais pas mal de pertes. Alors, il y a des prédateurs. Il y a pas mal d'animaux qui les mangent. Il y a des insectes. Il y a, par exemple, des carabes dorés qui aiment bien aller les manger. Ils attaquent par l'ouverture de la coquille et puis ils les mangent à l'intérieur.
C'est quoi, les carabes dorés ?
C'est des petits scarabées qui sont dorés, d'où leur nom.
Okay.
Et qui leur injectent un sort de venin. Et puis après, qui les digèrent, qui les mangent comme ça dans leur coquille, ouais.
Wow, c'est horrible.
C'est horrible, hein, ouais, ouais. Il peut arriver plein de malheurs aux escargots. Il y a les hérissons, les crapauds, enfin tout ce qui est batracien qui peuvent manger les escargots aussi.
Les renards ?
Non, pas les renards. Mais il peut y avoir, alors moi j'ai pas été victime de ça, mais certains agriculteurs, des sangliers, alors ils viennent manger les céréales qu'on donne aux escargots, ils sont attirés par ça. Et un sanglier dans un élevage d'escargots, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine.
Ah,
c'est la cata. Voilà, il casse tout et il écrase les escargots. Et...
Ok.
Donc il y a pas mal de pertes. Et en plus, mes escargots, le champ était assez humide vu qu'on est en Bretagne. Ils se noyaient, une partie des escargots se noyaient au mois de mai. Ben, par exemple, une année comme cette année, le champ est encore assez humide. En plus, on avait des sources qui sortaient au fond du champ. Et donc dans toute une partie du champ, j'avais pas une très grande productivité parce que les petits escargots, ben, ils sont trop petits, ils restent soit collés dans la boue, soit ils finissent dans une flaque, et puis un escargot terrestre ne peut pas respirer sous l'eau.
Wow.
Contrairement aux escargots marins. Ouais.
J'avais jamais imaginé qu'il puisse...
Ouais, ça peut se noyer, ouais,
ah, ouais, l'escargot
peut se noyer. Okay. Il aime bien l'humidité, mais pas trop.
Ouais. Il lui en faut d'ailleurs de l'humidité.
Oui, ouais.
Ça t'est arrivé d'arroser ?
Alors, on arrosait tous les soirs. On arrosait l'été, tous les soirs, sauf quand il pleuvait, pour humidifier le champ, pour qu'il puisse... L'escargot, c'est un animal nocturne, donc il sort manger la nuit.
Okay.
Et pour qu'ils puissent se déplacer, aller manger, on arrosait tous les soirs pendant une vingtaine de minutes. Le champ était humide et après c'était parti pour la nuit, c'était lancé, ils sortaient et ils allaient manger. Ouais.
Donc même la rosée bretonne ne suffit pas, il fallait quand même ajouter de l'eau, quoi.
Ouais, parce que l'idée c'est qu'ils mangent toute la nuit quand il fait frais. Et donc si on attend la rosée, c'est juste le matin et ça ne fait pas assez d'humidité assez longtemps pour qu'ils grossissent, parce que l'idée, c'est qu'ils grossissent vite.
Et ils mangent quoi ?
Alors, ils mangent déjà la végétation. On leur faisait pousser une partie de la végétation. Alors, j'ai beaucoup honte, parce que j'avais un dégât collatéral avec moi. C'est mon compagnon qui a beaucoup participé à l'aventure. Donc, on faisait pousser de la végétation, un mélange de colza, de trèfle, de plantain, pour que ça leur serve d'abri et de nourriture. Et on complétait, sinon ils auraient tout mangé et tout rasé, avec des, un mélange de céréales concassées qu'on mettait sur des planches. Souvent, quand on voit les élevages d'escargots, on voit des grandes planches et par-dessus des petites planches posées le long. Et donc, ça sert à la fois de mangeoire pour qu'ils viennent, pour qu'on puisse déposer les céréales dessus, qu'ils viennent manger, et d'abri pour que dans la journée, ils aillent se coller à l'abri du soleil. Et la végétation servait aussi d'abri.
Est-ce que tu as un recours avec les vétérinaires si ça se passe mal ?
Non, 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 l'escargot, il y a rien.
Connaissent...
Non, peut-être qu'ils connaissent quelque chose, je ne sais pas, mais il n'y a rien à faire quoi. Quand ça part
ils
mal.
Ils se font assez peu d'entorse, a priori.
Non. Il n'y a pas beaucoup de solutions, ouais.
Ok.
On a parlé d'humidité, mais du coup, ouais, ils sont sensibles à la sécheresse.
Oui.
J'imagine. Du coup, ça me fait penser à une chose. Très récemment, on avait, et encore aujourd'hui, là, on a le débat sur le déploiement du nouveau stade brestois en zone de Guy Pava. Mm. Une des premières espèces qui fait débat, c'est l'escargot. Déjà, est-ce que c'est les mêmes escargots ? Et ensuite, en fait, ensuite, je dis ça parce qu'aujourd'hui, on parle un petit peu de dérèglement climatique, d'effondrement de la biodiversité, etc. Et du coup, je fais le lien avec ton activité. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, c'est encore viable de cultiver justement des escargots ? Est-ce que c'est les mêmes escargots qu'on retrouve justement en prairie et ceux que tu élèves ? Et nous parler un petit peu de leur résistance à la sécheresse.
Alors du coup, c'est pas les mêmes escargots. Alors c'est les cousins. Moi, j'ai élevé des gros gris. C'est les cousins des petits gris qu'on voit dans le jardin. Ils sont juste un peu plus gros. Du coup, il y a plus à manger dedans. Ils ont la même coquille, un peu marron striée. Et par contre, l'intérieur, le manteau, la couleur est noire, alors que le petit gris, la couleur est crème. Et après, l'escargot qui est beaucoup utilisé comme parade des constructions ou des protections d'habitat, c'est l'escargot de Quimper qui est endémique ici. C'est un autre escargot qui est plus petit, peut-être qu'il peut se manger, je sais pas trop, mais il ne va pas y avoir grand-chose à manger là-dedans. Et qui est souvent utilisé voilà, en disant ben voilà, c'est endémique, c'est vraiment endémique dans le Finistère. Je ne sais pas s'il y en a encore un peu, je ne sais plus trop, mais pas de... Je ne sais plus trop l'air de répartition, mais c'est vraiment très, très local. Et donc, c'est vrai qu'on ne le retrouve pas ailleurs en France ou même dans le monde. Il est très joli d'ailleurs, il est un peu plat et il a même des poils dessus et des taches, on dirait un peu un léopard. Parce qu'il y a des escargots qui peuvent être poilus sur leurs coquilles, ils ont des sortes de petits poils qui poussent.
Un peu d'exotisme en voilà. Bretagne.
Et après la sécheresse, ben, alors, pour les élevages en Bretagne, on est plutôt épargné, mais c'est vrai que les élevages du sud de la France... quand il est vraiment très chaud, il peut avoir beaucoup de pertes parce que bah, ça impacte les escargots. Il y a aussi plus de développement de bactéries, donc les conditions deviennent de moins en moins cool, on va dire, pour des éleveurs d'escargots. Et ils peuvent avoir vraiment beaucoup de pertes parce qu'une fois qu'un escargot est pas bien et qu'il meurt, et ben, il y a des bactéries qui se développent, les escargots qui sont autour, ils sont contaminés. Et ça peut contaminer assez vite un élevage, ouais.
Quelles sont, selon toi, les plus grandes régions en France d'élevage d'escargots ? Donc ici, il y a les escargots de Quimper qui sont connus. Après, il y a la Bourgogne. Après, d'autres régions où il y a pas mal d'escargots. Pour toi, c'est comme ça, à ton avis, ce serait quoi ?
Alors, au niveau élevage d'escargots en France, c'est à peu près bien réparti. L'escargot de Bourgogne, en fait, n'est pas élevé. C'est un escargot qui est très difficile à élever parce qu'il faut attendre 2 ans qu'il arrive à taille adulte. Vu toutes les pertes dont je vous ai parlé entre les prédateurs, les conditions météo, c'est pas du tout rentable d'avoir un élevage d'escargots de Bourgogne. Donc en fait, les escargots de Bourgogne qu'on trouve dans le commerce viennent de l'Europe, ailleurs, de l'Europe de l'Est. Souvent, ils sont récoltés dans la nature. Souvent les gens sont un peu payés au lance-pierre, ceux qui récoltent les escargots, et après ils sont envoyés en France pour être transformés et donc vendus en France. Mais si on regarde, c'est pas des escargots français du coup. Donc, voilà. Les gros gris, les petits gris par contre peuvent s'élever, sont élevés en France et vendus directement en France, ouais.
Donc les escargots
qui a peur. Sinon, tu dis assez homogène dans le pays, c'est ça ?
Alors non, les escargots de Quimper, ils sont vraiment ici, en Bretagne, vraiment endémiques. Ils sont vraiment ici. Après, les petits gris, on en trouve partout en France. Et les gros gris sont des escargots plutôt qui viennent d'Afrique du Nord, qui ont été importés pour pouvoir les faire pousser, quoi, pour pouvoir les cuisiner, les manger après derrière.
Ouais, mais du coup, tu dis que les escargots n'aiment pas la sécheresse, mais en Afrique du Nord, bon après il y a les montagnes de l'Atlas, mais en Afrique du Nord, c'est le désert du Maghreb, c'est plutôt très sec.
Bah alors c'est pas le désert partout, il y a des endroits où c'est moins sec que d'autres, donc ils ont quelques endroits où ils peuvent faire
l'élevage.
Et il y a de l'élevage au Maroc aussi, ils sont assez forts aussi en élevage, ça se développe pas mal. Ouais.
Il y a les montagnes de l'Atlas où ça doit pas être trop sec, ouais. Eh ben, nous allons continuer avec un petit morceau de musique sur les escargots. Nous allons vous mettre le titre Hélix par le groupe breton de Pont-l'Abbé, ce n'est rien de...
Hélix le petit gris, taïka, il va. Hélix le petit gris s'en va faire une sortie.
Hélix le petit gris, caïka, il va. Hélix le petit gris s'en va faire une sortie.
Mais au fond du jardin, à petit pas, mais au fond du jardin se prépare son dessin.
Mais au fond du jardin, à petit pas, mais au fond du jardin se prépare son destin.
L'amateur a visé, caïka, il va. L'amateur a visé, dit bien l'eau dans mon palier.
L'amateur a visé, caïka, il va. L'amateur a visé, qui vient donc dans mon panier.
Pour un gastéropode, à petit pas, pour un gastéropode, la chose est bien commode.
Pour un gastéropode, à petit pas, pour un gastéropode, la chose est bien commode.
Le panier à salade, caïka, il va. Le panier à salade ne sent pas l'embuscade.
Le panier à salade, caïka, il va. Le panier à salade ne sent pas l'embuscade.
Rejoins tes camarades, à petit pas, rejoins tes camarades, finissez votre promenade.
Rejoins tes camarades, à petit pas, rejoins tes camarades, finissez votre promenade.
Comme disait mon grand-père, caïka, il va. Comme disait mon grand-père, les meilleurs sont au cimetière.
Comme disait mon grand-père, caïka, il va. Comme disait mon grand-père, les meilleurs sont au cimetière.
Mais pas question de cela, tu vas rester dans ta.
Mais pas question de cela.
Donc, dans la continuité de notre émission, après ce petit passage musical, nous allons discuter avec Mathilde, la fille de Laure. Mathilde, je pense que toutes ces petites bêtes qui sont devant tes yeux, ça doit... Bon, tu dois bien aimer les animaux, j'imagine, mais je pense que ça doit, te ça doit t'ouvrir l'appétit. Ça, je pense que ta maman doit faire de la cuisine et que du coup, tu dois bien aimer les manger aussi. Voilà, dis-nous un petit peu, quelle recette t'aimes bien que ta maman elle te prépare avec les escargots ?
Ben, en fait, j'aime bien toutes les sortes de recettes parce que c'est trop bon, les escargots. J'aime bien celles qui sont au persil, c'est très bon. Sinon, j'en ai pas vraiment de particulière, mais en tout cas, c'est très bon.
Est-ce que tu sais les cuisiner toi-même ?
Non, pas du tout.
C'est compliqué quand tu vois ta maman ou ton papa le faire ?
Je les ai pas souvent vus faire.
Ok, ils ont leur secret peut-être. Laure, t'as un secret ?
C'est des secrets de fabrication, ouais. Bon, la plupart du temps, c'était préparé en laboratoire. Donc, pas sur place, mais à 5 minutes de l'élevage. Elle n'a pas beaucoup vu, oui, puis elle était petite aussi. Elle est née, j'étais enceinte la première année que j'ai lancé l'élevage. Donc, elle est née au milieu des escargots, presque.
Et Mathilde, tu manges ça plutôt en entrée ou en plat de résistance ? En dessert ?
Ça dépend. C'est bon en entrée et en plat de résistance. Je mange pas ça en dessert. Mais en tout cas, je mange parfois un, parfois l'autre.
Et tu les manges chauds ? Moi, j'ai jamais mangé d'escargot, en fait, je confesse. Et je sais pas du tout comment on les mange.
En tout cas, c'est trop bon chaud. Moi, okay. Je les mange chauds.
Ok.
C'est meilleur chaud, oui.
Traditionnellement, les escargots, c'est plutôt dans les repas de fête, Noël ou des choses comme ça, et puis les font en persillade, quoi.
Oui.
Mais pas que en persillade, hein. On avait d'autres recettes aux algues. On en faisait aux algues. On allait récolter.
Au Roquefort.
Et au Roquefort, ouais.
Enfin, c'est le plus courant, quoi. Le plus courant,
c'est la persillade, ouais, ouais.
Ah, ça me donne faim.
Tu vois, tu aurais dû goûter les escargots. Ils étaient en vente au Mélardi pendant longtemps.
Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de voir les barques. J'ai jamais franchi le pas.
Ouais, t'aurais dû.
Ouais, c'est ça. Et donc, Mathilde, les escargots étaient dans le jardin à la maison ?
Oui. Mais du coup, moi, j'en garde un dans un terrarium. En ce moment, il hiberne, vu que c'est l'hiver.
C'est-à-dire qu'il ne fait que dormir ?
Oui, voilà.
Il ronfle ?
Non.
Est-ce que tu penses le manger à la fin ?
Non, je ne le mangerai pas.
Et donc, alors on a parlé de la façon d'élever. Où se situait l'élevage, du coup ? Alors, si on se situe sur la Bretagne ou sur la carte de France ?
Sur la carte de France, à 3 km de Locmélar.
Ok, donc précisément.
Voilà. Et juste à côté d'ici, pas très loin de la petite chapelle Sainte-Anne, de l'autre côté de la vallée.
À Lampol-Guimillon.
À Lampol-Guimillon, ouais.
Et combien de temps tu as fait cet élevage ?
Donc j'ai fait 7 ans d'élevage. Pendant 7 ans, élevé, commercialisé les escargots, ouais.
Ok, tu arrivais à en vivre ?
Alors, en vivre... Heureusement qu'on était deux, on va dire, qu'il y avait un autre revenu pour qu'on puisse vivre décemment, on va dire.
Okay.
C'est assez difficile, seul en fait, je pense que ça marche mieux à deux. Mais en étant seul sur l'élevage, c'était assez compliqué, parce qu'il faut tout faire. On est éleveur, mais on est aussi cuisinier, et puis vendeur, et commercial, et donc on a plein de casquettes.
Ah oui, donc t'étais femme orchestre.
Voilà, un petit peu, et du coup c'est toute la semaine. L'hiver, quand l'élevage était fini, je transformais mes escargots, donc c'était toute la semaine, et je les vendais le week-end sur les marchés. Donc au final, il n'y a pas beaucoup de vacances, pas beaucoup de week-ends. Et puis la vie de famille aussi fait que, voilà, au bout d'un moment, on a envie d'avoir un petit peu plus de temps pour la vie de famille et peut-être un petit peu plus de vacances aussi, un petit peu plus de revenus. Donc l'aventure était vraiment chouette. Aucun regret de l'avoir fait. Et puis je me suis arrêtée au bon moment, je pense. Donc aucun regret d'avoir arrêté non plus, à part que je... Il me manque un petit peu d'être au milieu de mon champ à regarder mes escargots, mais voilà.
Alors, il paraît que beaucoup d'escargots, ça fait du bruit.
Oui, ça fait,
tu
ça fait du bruit.
Tu peux nous en parler ?
Alors, les voisins ne se sont jamais plaints ni du bruit ni de l'odeur. Mais on peut les entendre manger quand on se balade. Je faisais des tournées tous les soirs, plusieurs fois le soir, avant d'aller me coucher pour vérifier qu'ils étaient bien sortis, qu'ils étaient en train de manger, qu'ils n'étaient pas en train de s'échapper. Aussi, j'allais les surveiller quand il y avait des tempêtes et des coups de vent et des pluies, surtout en fin de saison. Parce que quand ils étaient bien gros et bien nombreux, et ben, ils pouvaient essayer de s'échapper. On avait des... En fait, c'est comme pour les moutons, il y a une petite barrière électrique. Et quand ils étaient tous dessus, ils pouvaient faire baisser l'intensité et finalement finir par s'échapper.
Donc, la révolution.
Oui, la révolution des escargots. Donc il fallait les avoir à l'œil à la fin pour pas qu'ils partent dans la nature. Ah ouais. Et donc, une fois qu'ils sont nourris et qu'on a arrosé, le soir ils sortent et la nuit on entend un bruit. Pas énorme, hein, mais on les entend bouger, manger.
C'est une sorte de bruit humide ?
Ouais, un petit peu, hein, ouais. Okay. On peut dire ça comme ça. Et on les entend tomber aussi, parce qu'ils aiment bien, donc ils montent tous, ils font des grappes, ils se collent les uns aux autres. Et puis celui qui vient tout le monde, au bout d'un moment, ça fait trop de monde, donc pof, on entend les escargots tomber. Donc les planches sont pas très hautes pour pas qu'ils se cassent leurs coquilles, mais on les entend aussi se casser la figure.
Ouais. Ok, tu te rappelles de ce bruit de l'élevage ? Non ?
Non.
Quel souvenir tu gardes de l'élevage ?
Parfois, je donnais à manger, mais j'étais jeune.
Donc, tu faisais attention à ne pas les écraser en allant dans l'élevage ?
Oui, du coup, oui.
Tu avais des petits pieds, c'était plus facile ?
Oui.
Alors, l'élevage était fait de façon à ce qu'on puisse pas... On rentrait pas dans les enclos. On tournait autour, donc les enclos étaient pas très... Ils étaient très longs, mais pas très larges, pour pouvoir atteindre à l'intérieur, pour pouvoir... par exemple entretenir la végétation ou donner à manger. Et donc on circulait autour des parquets escargots.
Donc l'idée, c'était pas de rentrer dedans, quoi.
Non, on essayait de pas rentrer dedans, justement pour pas marcher dessus, pour pas les écraser.
Peut-être ouais. Avant la fin de l'émission, du coup la petite battle de fin, escargot de terre ou escargot de mer?
c'est la question piège. De terre, allez, escargot de terre.
Donc, par conséquent, pas escargot de l'armor, mais escargot de l'argouate. Ok.
Non, juste voulais dire que si jamais il y en a qui veulent élever en terrarium, c'est très facile. Et s'il n'y a pas de bonnes plantes qu'ils aiment, on peut faire avec des papiers, ça va aussi. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec du papier de couleur, ils font des cacas de couleur. J'ai essayé avec du papier bleu, du papier jaune, ils font des cacas de toutes les couleurs, c'est trop drôle.
Ah, donc les escargots, si tu leur mets du papier à la place des feuilles, ils se rendent pas compte de la différence, quoi.
Faut quand même faire attention, parce qu'après, ils préfèrent quand même les plantes, mais ils mangent ça aussi. Okay. Ils peuvent aussi manger des feuilles.
Ok.
Dans les boîtes aux lettres, ils viennent manger le courrier.
Ah oui, ça m'est arrivé, oui.
Et si tu laisses une canette de bière dehors, ils vont manger l'étiquette.
Il y a des terrariums spéciaux. Par exemple, moi, j'aimerais bien avoir un blobarium. C'est un truc pour élever un blob. Un organisme unicellulaire vivant. Voilà. Et voilà. C'est transparent, il y a des trous pour respirer.
Je crois que tes parents sont biologistes.
Oui.
C'est passé dans les jeunes.
Le blobarium, ah ouais, c'est grand ?
Bah, ça dépend.
Parce que ça peut être grand, le blob, ouais ?
Bah, il peut augmenter, oui. J'ai des blobs, ils vivent pas dans des blobariums, ils vivent dans des boîtes de pétri.
Ah, t'as déjà des blobs ?
Oui, et ils se sont étalés sur toutes leurs boîtes de pétri.
Mais je voudrais quand même savoir si les escargots et les blobs s'entendent.
Je sais pas trop, j'ai jamais testé d'en mettre deux à côté.
Merci d'avoir précisé ça. Ouais.
Eh ben, chers auditeurs, chères auditrices, je vais vous dire good evening, et du coup, merci d'avoir été à notre écoute. Et nous remercions Laure pour nous avoir présenté son parcours aussi bien au niveau des escargots aquatiques et son parcours dans l'élevage, l'héliciculture des escargots, 200 000 escargots quand même, ça commence à faire. Et du coup, nous allons nous remercions également Mathilde, la fille de Laure, pour son intervention très, très intéressante, très pertinente. Et puis, Jean-M et Romain et Quentin, bien entendu. Et
merci Ludwig.
Et
merci.
Moi-même.
Merci.
Et bon, voilà. voilà, se renverser soi. Et le bar le Mélardite, et tout le monde, voilà.
Vive le Mélardite.
Vive le Mélardite, et du coup, nous nous retrouvons dans deux semaines, et nous allons passer le mic à, justement, il s'appelle Michael Di Mike. Voilà, donc nous allons passer le mic à Mike, voilà. Donc, bonne soirée à tous, et Kenao, Harvey Fall.
Du troupeau, aimez la radio.
C'est juste que vous